RFI 7h42 en temps universel, tout de suite les sports. Avec vous Victor Missistrano, pour commencer direction Dakar. Aujourd'hui ont lieu les demi-finales de la Ligue africaine féminine de basketball.
Et à domicile, l'ASC Ville de Dakar s'est qualifiée au bout du suspense hier. Les Sénégalaises sont venues à bout du règle du Rwanda après prolongation 61 à 57. Écoutez la satisfaction de l'entraîneur Moustapha Gaye au micro de Babacar Fall.
Le minimum pour nous c'était d'aller en demi-finale. Je félicite l'équipe de règle qui était très bonne sur 3-4 ans. Féliciter de nos joueuses hein, qui ont serré les coudes, qui ont fait une dépense d'énergie incroyable pour revenir. Il faut rapidement digérer et penser au match de demain. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on va bien se préparer. Une demi-finale, on va tout donner pour gagner, pour aller en finale. Quel que soit l'adversaire, Al-Ahli nous avait battu, mais on n'a pas peur d'Al-Ahli. On va jouer à fond avec notre équipe, hein, ce que nous avons fait. On va le faire vraiment avec toute l'énergie qu'il faut. Maintenant, après, on verra.
ASC Dakar Al-Ahli, c'est à 17h temps universel. À 21h TU, l'autre demi-finale oppose le Ferroviario Maputo à l'APR du Rwanda.
Toujours au Sénégal, on connaît le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football.
Il assurait l'intérim depuis le mois d'octobre. Pap Thiaw, 43 ans, succède officiellement à Aliou Cissé, le champion d'Afrique 2022 limogé après 9 ans de mandat. Un responsable de la fédération a fait cette annonce hier dans une vidéo à l'issue d'une réunion de l'instance.
Et on continue de parler foot avec le début de la troisième journée de Ligue des Champions ce samedi.
Et le TP Mazembe qui reçoit les Young Africans à Lubumbashi. Le géant congolais est dos au mur. Un seul point après deux journées pour les Corbeaux, demi-finalistes de la dernière édition. Ils peinent à prendre leur envol. Occasion idéale face à cette équipe tanzanienne qui a perdu ses deux premiers matchs mais qui était venue s'imposer il y a trois ans. Et ça, l'entraîneur du TP, Lamine Ndiaye, ne l'a pas oublié.
Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont venues gagner ici. Eux, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, on est en 2024 et je pense qu'eux-mêmes ne sont pas au mieux. On est à la recherche de notre première victoire. Il faudra un bon état d'esprit, en tout cas, pour aborder ce match, se battre et devant notre public, espérer vraiment faire la différence. Si on veut être ambitieux dans ce tournoi-là, il faut qu'on soit plus réaliste et plus efficace. Retrouver un état d'esprit, une envie folle, quels que soient les obstacles qui seront devant nous, mais on ne va pas se mettre des pressions inutiles. En tout cas, on s'est bien préparé pour pouvoir faire la différence.
TP Mazembe, Young Africans, coup d'envoi 13h temps universel. Au même moment du côté de Kinshasa, l'autre représentant de RDC, Maniema, accueille l'AS Far de Rabat. Un peu plus tard, le stade d'Abidjan reçoit les Sud-Africains d'Orlando Pirates au Felicia. Victoire impérative pour les Ivoiriens qui ont perdu leurs deux premiers matchs, mais qui surtout ont montré de très belles choses selon leur entraîneur Alexandre Lafitte.
On a un sentiment pour l'instant de frustration, mais à la fois aussi on a un sentiment où on a l'impression qu'on est proche. On sait qu'on va jouer une grosse équipe. On a aussi quelques pépins qui ne favorisent pas la continuité des performances. Mais on sait que c'est un match important et que si on ramène la victoire, on revient à un point du deuxième. De faire un grand match en essayant de reproduire ce qu'on a fait offensivement, mais en allant chercher ce but. Et puis par contre, en essayant de rester très solidaire, très costaud défensivement pour ramener la victoire.
Stade d'Abidjan, Orlando Pirates, coup d'envoi 16h, temps universel.
Merci Victor Missistrano, à demain. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Dimanche dernier était un jour de fête à Accra comme à Damas. Au Ghana, la liesse populaire saluait l'élection de John Dramani Mahama et la consolidation d'une démocratie, tandis qu'en Syrie, elle célébrait la chute d'une dictature héréditaire. Pourquoi vouloir à tout prix relier ces deux événements survenus dans deux mondes a priori opposés ?
Bien des réalités politiques aberrantes encore vécues par quelques peuples africains transparaissent dans les méthodes mafieuses de cette dictature familiale qui vient de tomber à Damas. Il se trouve par ailleurs qu'au Ghana, comme dans presque toute l'Afrique, vivent d'importantes communautés libanaises proches de la Syrie ou syriennes. Autrefois, en Côte d'Ivoire, les adultes appelaient Syriens, y compris les Libanais, pas par confusion de ces peuples voisins, mais parce que tous connaissaient l'histoire, la géographie et les imbrications entre ces deux peuples. Certains Libanais d'Afrique sont en fait des Syriens qui n'éprouvent pas la nécessité de rectifier, même là où des Libanais, à tort ou à raison, sont indexés pour une connivence coupable avec quelques fonctionnaires véreux. Il y en a certes, mais la plupart sont des travailleurs acharnés qui peinent à joindre les deux bouts et réprouvent tout autant les comportements de ceux des leurs qui jettent l'opprobre sur tous. Aussi, lorsque depuis Accra, Abidjan, Cotonou ou Dakar, les Africains observent ce à quoi les politiques en Syrie comme au Liban ont réduit leur peuple, contraints de s'exiler pour espérer survivre, ils ne peuvent ne pas compatir à leur détresse. Le mal que les Assad, père et fils, ont fait à la Syrie et aux Syriens leur rappelle les torts que font en Afrique certains politiciens à leur propre peuple. Le fait que Bachar el-Assad ait rejoint le parti des perdants trouve donc un écho auprès de nombreux Africains, heureux de voir les espérances des Syriens enfin comblées.
Mais pourquoi relie-t-on au Ghana la victoire de John Dramani Mahama à la mauvaise gestion de Nana Akufo-Addo ?
Parce que les Ghanéens n'apprécient pas ce qu'il a fait de leur économie avec cette inflation paralysante qui n'épargne personne. Nana Akufo-Addo est de tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis le renouveau démocratique en 1992, celui qui désirait le plus ardemment le pouvoir. Et dans une Afrique en quête de leader qui lui rende sa fierté, il avait le discours pour plaire, mais la seule rhétorique ne pouvait suffire à combler un peuple averti, sûr de ses conquêtes démocratiques et en attente de résultats palpables. Akufo-Addo, ne pouvant plus être candidat, c'est donc son vice-président et son parti qui payent pour ses insuffisances. Les électeurs ghanéens savent sanctionner la mauvaise gestion, comme ils l'avaient déjà fait il y a 8 ans avec John Dramani Mahama, congédié après un premier mandat pour ses contre-performances économiques. Le cédi ghanéen avait alors perdu près de 37% de sa valeur. C'est en cela que la démocratie peut être un excellent levier pour le développement économique. Elle oblige les dirigeants à fournir des résultats sous peine d'être licenciés par les urnes.
Certains pays de la sous-région donnent l'air de bien s'en sortir économiquement, même sans une démocratie franche et sincère.
Peut-être pensez-vous à ceux protégés par leur appartenance à la zone franc dont les contre-performances se diluent dans le bien-être des autres. Pour cela, le franc CFA est certes un beau paravent, mais même entre États d'une même zone monétaire, il y a les pays qui se tiennent bien, et les autres. Le masque, un jour ou l'autre, finit par tomber fatalement. Et le temps n'est plus loin où partout les dirigeants devront bien gérer au nom des comptes qu'ils doivent à leurs électeurs. Lorsque l'on sait devoir craindre la sanction de son peuple, on gouverne toujours dans son intérêt. Là réside toute la différence avec les régimes autocratiques. Pour le reste, si les Ghanéens rappellent aujourd'hui aux affaires un homme congédié pour avoir échoué 8 ans plus tôt, c'est parce que partout les peuples ont le sentiment qu'ils vivaient mieux hier qu'ils ne vivent aujourd'hui. Comme disait naguère autour du damier, un ancien de mon quartier à Lomé, « Hier était beau ». Hier semble toujours plus beau, enfin, souvent.
Merci Jean-Baptiste Placard. C'est un pays où la crise pourrait encore s'accentuer aujourd'hui, en Géorgie. Ce matin, un collège électoral doit élire au suffrage indirect le président, poste promis à un ancien footballeur d'extrême droite face à la sortante pro-européenne Salomé Zourabichvili qui refuse de rendre son poste. Sans nouvelles élections législatives après le scrutin de fin octobre dénoncé comme truqué, à Tbilissi, l'opposition manifeste ce matin devant le Parlement, comme elle le fait chaque jour depuis 2 semaines, contre le report par le Premier ministre pro-russe des négociations sur l'adhésion à l'UE, un mouvement violemment réprimé où les journalistes payent aussi un lourd tribut. C'est notre menace sur l'information de cette semaine avec Anissa El-Jabri.
Ils sont des figures nationales de la profession envoyées pour couvrir un tournant majeur dans leur histoire. Ces derniers jours, ils ne sont pourtant plus dans la rue, mais chez eux, avec pour consigne de rester allongés après un passage depuis plusieurs jours à l'hôpital. Maka Tchirladze, journaliste sur la chaîne TV Pirveli, Gouram Rogava, reporter réputé de Formula TV, ont en commun d'avoir été agressés pendant qu'ils étaient en direct sur leurs chaînes respectives. Il y a pile une semaine, vers 21h, Maka Tchirladze travaillait juste à côté du Parlement.
Il y avait une voiture de police au coin de la rue, mais surtout un groupe d'hommes masqués en noir dans une rue sans éclairage, en train de tabasser 2 hommes. Je leur ai demandé « Qui êtes-vous ? Pourquoi est-ce que vous frappez ces hommes ?» 7 à 8 d'entre eux se sont alors tournés vers nous. Je n'ai même pas pu voir celui qui s'approchait derrière moi et il m'a jeté par terre. je me suis retrouvée encerclée et frappée au sol. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. L'un d'eux a fini par dire « C'est une femme, on laisse tomber maintenant ». Et un autre a répondu « Ce n'est pas une femme, juste une salope de journaliste d'investigation ».
Caméraman également battu, totalité du matériel volé, Maka Tcherladze a subi une commotion cérébrale, un œil et un genou très abîmés, des bleus sur tout le corps.
Je n'ai pas peur. Je n'attends qu'une chose, c'est de retourner faire mon travail. Mais ce qui me rend anxieuse, et ça c'est beaucoup plus douloureux que mes blessures physiques, c'est que dans mon pays désormais, je n'ai plus confiance dans les institutions.
Persuadée que personne ne retrouvera jamais l'homme qui aurait pu le tuer ou le laisser paralyser, Guram Rogaya, lui, n'attend rien de la police après le coup reçu très près de sa moelle épinière le 29 novembre dernier. Une importante minerve autour du cou, il explique.
C'est fait pour montrer à mes collègues, regardez ce qu'il se passe si vous l'ouvrez, si vous êtes contre nous, si vous voulez montrer la vérité au public. Ce n'est pas une erreur, c'est une politique délibérée de ce système. Le rêve géorgien me dit aussi autre chose. Nous ne montrons pas ce qui t'est arrivé sur nos chaînes de télévision au public qui nous croit, nous. Ils me disent en fait, tu es invisible. Dans ce pays, tu n'as aucun droit.
La vidéo de son tabassage a bien été montrée à un membre du gouvernement par la presse. Le ministre a ignoré le sujet. Anissa El Jabri, Tbilissi, RFI.
Menace sur l'information à retrouver sur RFI.fr. Et sur RFI, bientôt 8h en temps universel. Bientôt l'heure de refermer cette édition d'RFI Matin. Mais d'abord, notre rendez-vous du samedi, un mot, une histoire. Chaque semaine, Lucie Bouteloup rencontre les amoureux de la langue française pour parler avec eux d'un mot qui leur est cher.
J'utilise beaucoup plus en créole qu'en français. Au-delà du mot pour lui-même, je le vois et en même temps je le mange un peu ce mot. Ça a des couleurs, ça a une texture. J'aime beaucoup ce que ça provoque dans la bouche.
Bleu, c'est le nom de son troisième album. Un album pour lequel la réunionnaise Anne O'Haraud a remporté un prix aux dernières victoires de la musique. Elle y joue du piano, façon Maloya, revisité à la sauce blues, et surtout, elle y chante, en créole, une langue qu'elle a mis du temps à se réapproprier. Pour Anne, en plus de la musique, il y a aussi la poésie, avec des textes qu'elle adapte systématiquement en français pour être sûre de ne passer à côté d'aucune émotion. Et quand je lui ai demandé le mot dont elle voulait parler, elle en a choisi un. Aux couleurs de son île.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
J'ai choisi le mot lambrequin, ou lambroquin en créole, qui est un ornement en fait, architectural sur les maisons coloniales à La Réunion, et qui arbore des dessins très différents, qui ont beaucoup de signification. Ce sont des motifs qui se répètent comme des frises.
C'est une dentelle, un peu.
Oui, c'est la dentelle de nos cases créoles. Ça sert de décoration, ça sert d'affirmation aussi, parce qu'il y a des messages différents selon les designs choisis, si c'est plutôt des choses florales, si c'est des choses plus animales. Il y a quelque chose qui nous évoque des histoires, des légendes créoles. C'est vraiment quelque chose qui parle aussi dans le paysage. Et ces éléments-là se distinguent très très fortement, donc j'aime bien. Lambrequin, j'aime bien sa sonorité, j'aime bien le « han ». Comme ça, le lent, j'aime bien ce que ça amène. Et puis, et les cassures après, broquin, lambroquin. Ça sonne bien, c'est-à-dire que ça va avec plein d'autres mots. Il y a beaucoup de K, il y a beaucoup de R aussi dans la langue. Et puis en même temps, il y a ce truc qui coule quand même. Donc dans une phrase, le temps qu'on prend à le dire aussi, lambroquin, il prend son espace, on le voit, on le visualise. Il y a un chemin, c'est le mouvement de ce mot-là que j'aime bien.
En même temps, c'est un mot qui est très marqué culturellement. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous l'aimez ?
Oui, c'est-à-dire que ça vient avec tout un univers. C'est comme un filtre. Je vais mettre le filtre lambroquin, puis je vais voir une époque précise, je vais voir une situation peut-être politique. C'est à la fois quelque chose qui est proche d'un certain rêve d'exil que certains Français peut-être ont eu au départ quand ils sont venus s'installer. Et puis à la fois, c'est une nostalgie des vieilles maisons avec leurs lambrequins et leurs façades très marquées. Et puis en même temps, de se dire que tout ça, ça reste des motifs dont on peut s'en emparer pour en faire des tatouages, en faire des dentelles à l'intérieur de nos portails ou j'en sais rien. C'est un peu nos hiéroglyphes, quoi, peut-être.
Selon le dictionnaire Le Robert, le mot lambrequin définit une bordure à feston et à franges.
C'était un mot, une histoire.
Anno Haro, bientôt en tournée dans toute la France avec sa formation Lagon Noir. Et il ne date à Paris le 31 mars au Café de la Danse. Voilà, bientôt 8 heures en temps universel. On se quitte en musique avec le rappeur français d'origine kino-congolaise, Que Black, et son titre Bababa dans la sélection du mois d'RFI.
J'arrive en pétard sur la pécane dans ta tête. Et si ton père ne veut pas pour la dot, moi je vis de la caisse. J'suis plutôt fêtard et tu le sais, j'te parle en vrai. J'suis pas l'homme dont tu rêvais, parlons français. Pourquoi faire des folies? J'sais que tu le sais. Te perdre c'est ma phobie. J'deviens bête. Et quand tu plais, tu sais ça me fait de la peine. Pendant des heures, je cherche à faire la paix. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. On se verra de temps en temps. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. On se verra de temps en temps. Rien que tu pénales, je suis pas solo, on se parle après. J'ai dit allô, allô, ah, désolé, je t'en double appel. Pour avoir la paix, faut passer par la guerre. Nous deux, on fait la paire. J'ai plus de temps à perdre, tu tireras ta femme et j'ai arraché ton cœur. Pourquoi faire des folies?
Bababa, le titre de Que Black que vous retrouvez dans la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition d'RFI Matin. Je remercie Christophe Pernet à la réalisation. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. Et d'ici là, bien sûr, l'info continue sur la radio du monde. Très bonne journée.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
La crise politique en France a déjà de sérieux impacts sur son économie. Certains investisseurs commencent à douter et un grand point d'interrogation pèse sur le budget 2025. Pour en parler, nous recevons Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui engagé dans la lutte anticorruption.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Au programme cette semaine, une princesse du marais, originaire de Floride, États-Unis, une diva ouzbek version ex-URSS, un hippocampe fou, français celui-là, et un malien de Calabre en live sur une scène flottante en Allemagne. Êtes-vous prêts seulement?
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.